Radio Grand Ciel présente le quart d'heure de santé, une émission réalisée grâce à la participation technique et musicale de Jean-François Roland. Au micro, Christiane Blain. C'est avec bonheur que je reçois le docteur Gérard Roussel. Il va évoquer pour nous les maladies infectieuses de l'enfant. Docteur Roussel, bonjour.
Bonjour Christiane Blain.
Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on appelle maladies infectieuses ?
Alors, les maladies infectieuses sont celles qui sont causées par des micro-organismes pathogènes, c'est-à-dire des bactéries, des virus, des parasites ou plus rarement des champignons, pouvant se transmettre d'une personne à une autre, directement ou indirectement.
Alors, j'aimerais bien que nous revenions un peu à la terminologie. D'abord, qu'est-ce que l'on peut entendre par bactérie ?
Alors, bactérie, ça vient du grec bacterion qui signifie petit bâton. C'est un micro-organisme, un être unicellulaire, formé d'une seule cellule, à structure très simple, sans noyau. Son matériel génétique, qui est important pour l'infection, est diffus et se reproduit par scissiparité, c'est-à-dire par division de la cellule. Les bactéries ne sont pas toujours pathogènes.
Oui, parce qu'on est entouré de
bactéries. Tout à fait. Et elles sont même totalement indispensables. On ne vivrait pas sans bactéries, puisque notre intestin, par exemple, ne fonctionne que par les bactéries.
Oui. Donc ça, c'est important de le savoir. Les bactéries, on en a
On vit avec et on en a besoin.
Voilà. Alors les virus, c'est quand même tout à fait autre chose.
Donc les virus, ça vient directement du mot latin virus qui signifie poison. C'est un agent infectieux qui est très petit, qui est microscopique, qui possède un seul type d'acide nucléique. L'acide nucléique ARN ou ADN, c'est ce qui symbolise la vie, la structure du noyau, et qui ne peut se reproduire qu'en parasitant une cellule. Le virus ne se reproduit pas tout seul. Et le virus est toujours pathogène.
Ouais, c'est-à-dire qu'il rend malade.
Voilà.
Et en fait, avec un virus... Eh bien, on ne peut pas donner des antibiotiques.
Les antibiotiques ne sont actifs que contre les bactéries. Ils empêchent leur multiplication par différents mécanismes. Mais ils sont totalement inactifs sur les virus. Il existe actuellement quelques médicaments antiviraux très spécifiques, mais qui ne sont pas d'utilisation courante, par exemple dans le sida ou dans des maladies très importantes.
Mais on peut tout de suite dire à nos auditeurs qu'en fait, c'est absolument pas la peine de donner ce genre de médicaments quand on sait qu'on a, par exemple, une bronchite ou quelque chose comme ça.
Tout à fait.
Voilà. Alors, les antibiotiques sont bien sûr actifs, mais contre quoi alors ?
Contre le développement des bactéries.
Oui, c'est ça. Uniquement. Contre les bactéries.
Oui, alors, uniquement. Alors, dans certains cas de maladies virales, il peut se produire ce que l'on appelle une surinfection à ce moment-là bactérienne, qui aggrave la maladie et qui peut quand même nécessiter un traitement antibiotique. Mais ce n'est pas le cas le plus fréquent.
Bon. Alors maintenant, je pense à un enfant qui naît. Est-ce que lui, il a, en quelque sorte, est-ce qu'il est immunisé ?
Alors l'enfant, à la naissance, est protégé par les anticorps de sa mère. Donc il ne peut pas faire les maladies contre lesquelles sa mère est protégée.
Donc en fait, si... la mère allaite l'enfant, va être protégé pendant une année.
Non, pas tout à fait. L'allaitement maternel renforce la protection, en particulier les tout premiers jours de l'allaitement, avec ce que l'on appelle le colostrum, qui est très riche en anticorps. Mais dans les semaines qui suivent, même avec l'allaitement maternel, la protection diminue. Et c'est pas totalement efficace. D'où l'intérêt des vaccins. Bon, je n'y reviens pas, on a déjà fait une émission là-dessus. Et surtout, l'intérêt chez les petits-enfants de la prévention des contagions de maladies infectieuses.
Oui, alors prévention, vous voulez dire par là ?
Qu'en particulier les pathologies hivernales, sur lesquelles nous reviendrons, et les autres maladies contagieuses peuvent être prévenues par une bonne hygiène nasale.
Alors, hygiène nasale, il ne faut pas mettre n'importe quoi non plus.
Sérum physiologique ou dérivé d'eau de mer uniquement.
Oui.
Par l'utilisation par les parents et l'entourage de mouchoirs jetables. En cas d'éternuement, en se protégeant non pas avec sa main, mais avec l'avant-bras ou un mouchoir en papier pour ne pas transmettre.
Oui.
Par le lavage régulier des mains, simplement au savon, 30 secondes suffisent, mais 30 secondes, c'est long pour cela.
Oui.
Il faut vraiment savonner 30 secondes, que ce soit efficace.
D'ailleurs, en fait, le mieux, Moi, c'est ce que je fais, c'est deux fois. On se lave les mains deux fois.
Très bien.
Et ça fait à peu près ce temps-là.
Évite.
Et ça, on peut dire que c'est valable non seulement pour les enfants, mais aussi
mais bien entendu, pour les adultes. Oui, oui, oui.
Oui, c'est ça.
Éviter le contact direct, donc ne pas trop embrasser les enfants quand on est malade, même les poignées de main. Éviter de faire ses courses dans les supermarchés avec des tout petits en bas âge, donc période d'infection. Hydrater régulièrement l'enfant avec de l'eau, bien entendu. Penser à aérer son logement au moins 10 minutes par jour, ça c'est très important. Ne pas surchauffer les pièces.
Oui, et ça, l'aération, on peut dire que même en plein hiver, il faut le faire.
Ah oui, oui, oui. Il faut ouvrir les fenêtres au moins 10 minutes par jour. C'est de façon à changer l'air de la pièce. Et c'est une des préventions importantes. De même que ne pas trop chauffer. Mettre un humidificateur dans la chambre de l'enfant si l'atmosphère est trop sèche.
Et penser à remettre de l'eau.
Oui.
Parce qu'il y a souvent des humidificateurs, mais on oublie de mettre de l'eau.
Et bien entendu, ça semble évident, mais il faut le redire, bien couvrir l'enfant et ne pas oublier le bonnet pour sortir, bonnet ou cagoule, puisque le refroidissement se fait essentiellement par les extrémités. Donc
voilà.
Des petites moufles, des gants et une cagoule.
Donc ça, ce sont les précautions
à faire
quand on a un bébé.
Voilà. Alors, bien entendu, au cours des premières années de sa vie, ce petit enfant va être confronté à de nombreux germes, pas tous pathogènes, pas tous méchants. Et c'est une bonne chose parce que ça va renforcer son immunité propre.
Voilà. C'est bien qu'il attrape des maladies, en quelque sorte.
Tout à fait.
Parce qu'il se vaccine lui-même.
Voilà.
Alors,
il renforce ses défenses.
Oui. Alors, à partir de quel âge est-ce que vous avez rencontré ces maladies infantiles dont nous allons parler ?
Alors, suivant les maladies, ce n'est pas le même âge. On y reviendra à peu près à chaque fois.
Oui.
Mais il faut savoir que certaines peuvent être attrapées dès le premier mois. En particulier, si vous voulez, un enfant qui naît par césarienne est déjà moins renforcé que par voie naturelle. Qui ne bénéficie par exemple pas d'allaitement maternel peut se retrouver dès le premier mois avec des maladies, si c'est une coqueluche, qui peuvent être dramatiques.
Ah oui.
Donc il faut quand même se méfier.
Oui, mais alors une coqueluche, il faut l'attraper. Donc si l'enfant est à la maison, il ne va pas pouvoir attraper la coqueluche.
Puisque l'entourage n'est pas forcément à jour de ses vaccinations ou n'a peut-être pas refait de rappel depuis longtemps, est peut-être porteur de la coqueluche.
Ah oui.
Donc il faut se méfier. Enfin,
même
bon,
quelqu'un qui
n'est
pas malade.
C'est quand même... quelqu'un qui tousse, mais qui ne sait pas forcément qu'il a la coqueluche.
Ah oui, c'est ça. Il pense qu'il a
C'est pas fréquent. Mais même dans le premier mois, certaines pathologies infectieuses peuvent se voir.
Parce que on disait bien que dès qu'un enfant avait, par exemple, une maladie infectieuse, on s'arrangeait pour que les petits amis voient cet enfant... Et il l'attrapait comme ça. Est-ce que c'est aussi bien que le vaccin ?
Non, parce que le vaccin est atténué et permet de faire une protection sans avoir de maladie où on ne sait pas au départ si elle sera bénigne ou grave.
Oui.
On va y revenir. Et puis qu'il faut bien sûr ne pas faire ce genre de choses sur les enfants de la première année et surtout pas sur les enfants de moins de 6 mois qui sont particulièrement fragiles.
Oui. On fait ça surtout quand les enfants vont à l'école.
Oui, ils le font d'eux-mêmes, puisqu'ils sont ensemble.
Voilà. Alors justement, quelles sont ces principales maladies infectieuses qu'on rencontre chez l'enfant ?
Les principales maladies infantiles, tout le monde les connaît. Rougeole, rubéole, varicelle, oreillon, coqueluche, roséole, rhinopharyngite, gastro-entérite aiguë, les impétigos, scarlatine, bronchiolite. Enfin, toutes n'ont pas la même gravité. Plusieurs sont évitables par la vaccination, comme on en avait parlé lors d'émissions précédentes.
Oui.
Je voulais m'arrêter un petit peu plus aujourd'hui sur la rougeole.
Voilà, la rougeole. Alors, la rougeole, c'est peut-être la maladie la plus grave pour les enfants.
Peut-être on ne peut pas dire la plus grave, mais parmi les maladies à potentiel grave, de gravité.
On peut en mourir ?
Oui.
Ah oui.
Oui, encore aujourd'hui.
Et vous-même, dans vos...
On peut en mourir, je vous le dirai tout à l'heure, peut-être plus à l'âge adulte que dans l'enfance.
Oui. D'ailleurs, je pense que toutes les maladies qu'on peut avoir en étant adulte sont beaucoup plus graves, ce genre de
maladies. Les maladies dites infantiles, oui. Certaines infections, non, elles sont plus graves chez le nourrisson.
Oui, parce que je pense à la varicelle qui est le zona, en fait,
oui,
chez la personne plus âgée.
Oui, oui.
C'est beaucoup plus grave.
Plus douloureux, surtout. Oui.
Et alors, oui, on reparlera de la varicelle
oui,
en son temps.
Donc, de nos jours, c'est encore une des principales causes de mortalité infantile mondiale, la rougeole. Je ne parle pas des pays développés, je dis bien mondial. Avant le vaccin, on estimait à 2 millions de morts par an dans le monde. Entre les années 2000 et 2016, on a réussi à faire baisser de 84% le nombre de victimes. En 2016, il y avait 89 780 morts dans le monde selon l'OMS, donc on était en dessous de la barre des 100 000.
Et est-ce qu'on sait en France
Alors en France, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2017, il y a eu 24 500 cas, dont 1500 pneumopathies graves, 38 complications neurologiques et quand même 20 décès.
En 10 ans.
En 10 ans. Du 1er janvier 2018, alors les premiers chiffres que j'avais étaient jusqu'en février, on était à 429 cas, mais au 11 avril, donc depuis le 1er janvier jusqu'au 11 avril, on est à 1500 cas en France. C'est-à-dire qu'on a multiplié par 7 par rapport aux années précédentes.
Alors je ne comprends pas parce que maintenant...
Donc on assiste à un retour de l'épidémie qui est dû à la baisse de la vaccination.
Parce que pourtant, il y a plus de vaccinations, on dirait.
Non, la vaccination contre la rougeole, qui jusqu'au 1er janvier de cette année n'était pas obligatoire, a considérablement baissé ces dernières années en France, suite aux différentes polémiques dont nous avions déjà parlé.
Oui.
Et on retrouve ce résultat avec une augmentation très nette. Alors surtout en Aquitaine, dans la région de Bordeaux, où il y a eu une épidémie.
Et comment on analyse ça ?
Parce que les gens ont baissé la garde sur les vaccinations.
Ah,
et là, c'est en 2018...
Redites-nous le chiffre, parce que c'est quand même...
Du 1er janvier au 11 avril 2018...
Oui, c'est-à-dire un trimestre.
1500 cas de rougeole recensés en France, un décès d'une jeune femme de 32 ans.
Ah oui.
Donc la rougeole est une maladie virale très contagieuse qui n'a pas de réservoir animal connu.
Ah oui.
Donc si on arrivait à l'éradiquer chez l'homme,
il n'y
a plus de risque puisque les animaux ne le portent pas. Elle est contagieuse par contact direct par les voies respiratoires, les éternuements, les... Et le virus reste contaminant pendant 2 heures dans l'air ou sur une surface contaminée. Donc contagion dès le début de la maladie, en général donc un petit peu avant le diagnostic. L'incubation est de 2 semaines.
Oui.
Début par une forte fièvre supérieure à 39. Bon, au début, il n'y a rien d'extraordinaire. Le nez coule, il y a de la toux, les yeux sont un peu rouges et larmoyantes. Le premier signe qui indique une rougeole... C'est sur l'intérieur, à la face interne des joues, des petits points blancs qu'on appelle le signe de Koplik et qui est significatif de la rougeole. Tout de suite après, survient l'éruption.
Donc il faut vraiment que les mères soient vigilantes et regardent.
Et regardent. Si l'enfant n'est pas vacciné.
Bien sûr.
Et ensuite, l'éruption visage, le haut du cou et l'ensemble du corps. Les complications sont plus fréquentes avant 5 ans et après 30 ans. Entre 5 ans et 30 ans, il n'y a pas de gravité particulière. Et bien plus chez les sujets dénutris ou fragiles. Complications, 3 à 6% dans les pays développés, mais on retrouve 30% si on est dans les camps de réfugiés.
Oui, ça j'imagine.
Les complications sont essentiellement donc oculaires, pouvant aller jusqu'à la cécité, des encéphalites graves avec des séquelles neurologiques à vie, quelques diarrhées avec des déshydratations, des otites, des infections pulmonaires graves, des pneumonies, qui peuvent être responsables d'hospitalisation, de séjour en réanimation des enfants, voire de décès. Chez la femme enceinte, il n'y a pas de malformation, mais il peut y avoir un risque de fausse couche.
Alors, les traitements, on peut dire qu'il n'y a pas vraiment de traitement antiviral. Il faut en fait attendre, prendre la vitamine A et
voilà.
C'est suffisant. Eh bien, un grand merci, docteur, et je me réjouis de vous retrouver pour d'autres maladies infantiles.
Merci à vous.
Chers amis auditeurs, vous pourrez également nous retrouver sur notre site internet www.radiograndciel.fr.